L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Jean-François Rolle, bonjour Pauline Arégui.
Bonjour.
Bonjour.
Avec Les Ravages du Genre, publié aux éditions du Cerf, vous vous attaquez, Pauline Arégui, vous êtes journaliste, et vous vous attaquez à un fléau mondial qui touche de plus en plus de jeunes, et particulièrement des jeunes filles. Votre livre est fondamental pour tous ces parents qui ont un enfant, souvent une fille, qui à l'adolescence annonce qu'elle s'appellera désormais Sacha et qu'elle est intimement un garçon. Désarroi des parents, on le comprend, qui n'ont même plus les mots. Il est bien évident qu'il n'existe pas de réunion de parents d'enfants LGBTQ+. Le magazine Causeur avait publié un bon dossier sur la question, montrant combien ces jeunes sont les proies de prédateurs financiers, dont George Soros, qui aurait massivement investi dans l'industrie pharmaceutique, chargée de produire des hormones que nos jeunes filles assimileront à vie pour que vivent des Sacha. Vous allez plus loin, Pauline Arégui, avec ce livre très complet sur le sujet, un livre qui se lit d'une traite, qui alerte et aussi permet aux parents de Sacha et aux amis des parents de Sacha de trouver les mots qui leur manquaient. Votre livre répond à une urgence. Qu'est-ce qui vous a motivé de travailler sur le sujet ?
Au départ, je travaillais pour défendre les droits des femmes. Et il y a eu ce sujet qui venait comme ça, à l'assemblement, de dire qu'en fait, être une femme, c'est un ressenti, et qu'une personne née homme pouvait être une femme aussi bien qu'une femme biologique. Et en fait, la définition du mot « femme » n'existe plus. C'est-à-dire que quand on défend les droits des femmes, qui est-ce qu'on défend ? Potentiellement tout le monde. Et c'est, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et au départ, c'était un intérêt, on va dire, au tout début, purement intellectuel, j'ai envie de dire, qu'en fait, ces personnes disent « une femme est une personne qui se sent une femme ». Et donc, on peut continuer comme ça, « qui se sent une femme ». Et donc, c'est une définition tautologique. Il me semble que c'est la première fois qu'on a un mot qui a une définition ou en fait sans contour. Je n'avais jamais vu ça. Et moi, d'un point de vue purement, déjà pour commencer, d'un point de vue intellectuel, ça m'a choqué.
Oui.
Juste ça.
Alors revenons au début, si vous le voulez bien. Oui. Je vous cite. Les jeunes vont mal, et en particulier les jeunes filles. Dans une étude Ipsos parue en novembre 2022, on lit que 53% des jeunes Français âgés de 11 à 15 ans souffriraient d'anxiété ou de dépression. Près d'un quart, 23% des adolescents, déclarent n'avoir personne à qui se confier. Les violences subies constitueraient le principal sujet d'inquiétude pour les jeunes, 50%. Selon les données de Santé publique France, 2021 a marqué une très forte hausse, 43% des admissions aux urgences de jeunes filles de moins de 15 ans, alors que le chiffre concernant les garçons du même âge est resté stable. Un peu plus loin, anorexie et dysphorie de genre sont des réponses somatiques à un refus de devenir une femme. On sent qu'il y a une vraie dépression chez les jeunes filles et un refus de devenir femme, peut-être parce qu'elles voient leur corps qui évolue, mais en même temps, dans une salle de classe, tous les corps évoluent. Maintenant, chacun évolue dans cette intimité à son propre chemin. Et il y a un refus aujourd'hui.
Oui, alors, le phénomène transgenre est apparu autour de 2010. Et c'est vrai
hier.
Que, oui, et de façon très exponentielle, très, très spectaculaire. Et c'est vrai que ça correspond à un moment où la santé mentale des jeunes, et spécialement des jeunes filles, a empiré. Donc, c'est lié. Et les jeunes filles, aujourd'hui, ont... alors, il y a plusieurs causes. Déjà, la puberté arrive plus tôt qu'avant. Il y a même des petites filles qui ont 10 ans qui commencent à avoir des seins alors qu'elles sont pas du tout prêtes. Ça cause une grande angoisse. Le fait aussi qu'au niveau sociétal, il y a une banalisation du porno. Et ça, en fait, il y a un vrai effet que maintenant, les enfants, même de 10, 11 ans, ont un smartphone dans leur poche. Et sur ce smartphone, ils ont accès à des contenus porno, mais porno d'aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement brutaux.
Oui.
Il y a une vraie, vraie évolution.
Et là, je vous cite, l'érotisation de pratiques humiliantes dans la pornographie, érotisation du viol, voire du viol pédocriminel, est extrêmement nocive pour l'estime d'elle-même des jeunes filles. Entourées de garçons qui construisent leur sexualité à travers ces images, elles subissent de lourdes pressions pour céder à des pratiques sexuelles qu'elles ne désirent pas et qui sont dégradantes, voire des violences sexuelles, des rapports sexuels désirés, mais avec des actes violents et des pratiques prostitutionnelles. Certaines jeunes filles, par réflexe de défense, fuiront la féminité en adoptant une identité transgenre. Est-ce que justement, ce phénomène de transgenre qui est énorme aujourd'hui et mondial, est-ce que ça ne vient pas de façon directe par une exposition à la pornographie à un âge beaucoup, beaucoup trop tôt.
Oui, c'est l'une des causes. Il y a des jeunes filles qui disent « je ne veux pas être une femme parce que être une femme, c'est être une victime, c'est être nue sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, » Elles ont une image des femmes.
C'est être violée et dégradée.
Voilà, et elles ne veulent pas être ces personnes-là. Elles disent aussi « je ne m'identifie pas à ça ». Ce qu'on peut comprendre. Cela dit, le problème, c'est que devenir transgenre n'est pas une réponse qui les aide véritablement. Parce que déjà, tout simplement, eh bien, elles restent des filles. Donc, si une fille veut fuir des violences, ce n'est pas en disant qu'elle est non-binaire que sa vie, que le regard éventuellement prédateur des hommes va changer.
Mais en se disant non-binaire, elle se place aussi en victime. Et cette victimisation par rapport à la société qui ne la comprend pas, va créer des droits d'une certaine façon.
Alors, pas forcément victime. En fait, oui. Ça crée une nouvelle catégorie d'opprimés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la cause des femmes n'est plus... Voilà, ça n'a jamais été cool, mais c'est vraiment pas très valorisant. Ces jeunes filles ne s'identifient pas à ça, elles ne se reconnaissent pas dans le combat pour les droits des femmes. D'ailleurs, elles ne veulent pas être une femme. En revanche, il y a la cause LGBT, maintenant QU+, qui est apparue et qui est beaucoup plus attrayante pour elles. Donc elles se disent, voilà, je suis non-binaire, et en se disant non-binaire, elles appartiennent à une communauté, donc c'est des communautés qui sont en ligne, qui sont très fortes.
Alors il faut en parler.
Oui, voilà.
Sur TikTok, par exemple.
L'influence des réseaux sociaux. Oui. Ce dont on peut-être se rend pas compte quand on a plus de 20 ans, mais ces jeunes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, en voyant des pairs d'autres jeunes. En plus, comme vous le rappelez, ce sont des jeunes qui sont isolés, qui ont moins d'activités entre jeunes, activités sportives et autres. Donc, ils passent beaucoup, beaucoup de temps sur TikTok notamment. Et là, ils voient d'autres jeunes qui leur disent « Moi aussi, je me sens mal. Moi aussi, je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Je suis maladroit dans les relations sociales et j'ai entamé une transition. Maintenant, je m'appelle ceci ou cela. Je suis non-binaire ou je suis un garçon trans. Et tout va bien. »
Et là, on a TikTok qui vous donne les 5 points forts qu'il faut dire aux parents, en disant les mots-clés. Et puis, si tu as réussi ces mots-clés, bravo, tu rentres dans la communauté des 2,5 millions de jeunes à travers le monde qui sont comme toi et avec des cœurs et des flashs, etc. Donc forcément, on trouve une nouvelle famille, mais une nouvelle famille, une e-famille, une nouvelle famille qui est totalement abstraite.
Oui, non, pas seulement, parce qu'il y a aussi ce que certaines personnes appellent des clusters, et le nom est pas mal trouvé, dans des lycées. Donc c'est aussi, ils se regroupent aussi physiquement dans les associations LGBT, entre groupes d'amis, donc c'est pas seulement virtuel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est effectivement un groupe très valorisé, c'est une appartenance qui est valorisée. On leur dit, bravo, tu as du courage d'assumer qui tu es, et puis... tes parents ne te comprennent pas. Mais évidemment, quand on est adolescent, on pense que nos parents ne nous comprennent pas et qu'on est unique au monde et qu'il n'y a que les autres jeunes qui nous comprennent. Mais c'est
famille,
normal.
Je vous hais.
Voilà,
déjà, j'y l'avais dit. Enfin.
Le problème, c'est une phase du développement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et ces jeunes disent vraiment, voilà, vos parents ne vous comprennent pas, ne vous accompagnent pas dans votre désir de transition. En revanche, le problème qui se pose, c'est que les profs, maintenant, sont obligés...
Ben oui.
Y a des médecins aussi extrêmement complaisants. Et en fait, comme ces jeunes sont persuadés qu'ils ont trouvé la réponse à leur malaise, se donnent entre eux les astuces du chirurgien qui va accepter de faire une chirurgie sans avoir de certificat psychiatrique. Vraiment, il n'y a aucun
Alors,
doute.
La circulaire Blanquer, je vous cite, le ministère recommande aux enseignants d'éventuellement cacher la transition de genre d'un élève à ses parents. Et je cite, si l'élève, ça c'est la circulaire Blanquer, si l'élève fait seul la démarche d'aborder la question de son identité de genre auprès d'un personnel de l'établissement, une communication avec les représentations légaux ne doit se faire qu'avec l'accord explicite de l'élève. Donc vous avez un élève qui est mineur, qui dit maintenant, une élève qui est mineure, qui va déclarer qu'elle s'appelle Sacha, qu'elle va déclarer qu'elle est un garçon, qu'elle veut prendre des hormones jusqu'à la fin de ses jours pour être un garçon, elle va rencontrer un chirurgien complaisant, et elle revient chez ses parents avec une carte d'identité scolaire. C'est déjà un document officiel pour un enfant, carte d'identité scolaire. Carte d'identité scolaire sur laquelle c'est marqué Sacha. Et donc, en cours, les profs, quand ils l'interrogent, doivent dire « Sacha ». Eh bien, la personne se sent déjà à la fois valorisée parce que c'est une réponse à une question qu'elle se posait, valorisée dans son choix, et en même temps, on perd tout repère, là.
Oui, en fait, le problème, et le gros malentendu, même il y a des personnes dans la société très bien intentionnées et qui subit ce malentendu, c'est qu'il y a vraiment la cause des transgenres, c'est complètement plaqué sur ce qu'était la cause des homosexuels.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit l'homosexualité n'est pas une maladie, n'est pas un crime. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas le choisir, ça se manifeste par des attirances, etc. C'est un fait. Et si on essaye de forcer ces personnes à devenir hétéros, ben en fait, c'est cruel et en plus, c'est inefficace. Ça, maintenant, il y a relativement un consensus là-dessus, et tant mieux. Et en fait, les militants transactivistes ont le même discours à propos des trans, de dire si un enfant ou adolescent dit qu'il ou elle est trans, eh bien, c'est la vérité parce qu'il ou elle le dit. Donc, il faut surtout aller dans son sens. Et c'est là où c'est très ambigu, la circulaire Blanquer et la loi. Il y a une loi en 2021 contre la thérapie de conversion. En fait, c'est un mot que tout le monde connaît parce qu'au départ, thérapie de conversion, c'était pour transformer, enfin pour forcer des homosexuels à devenir hétéros. Donc ça, il y a un consensus pour dire que qu'il faut pas faire ça, que c'est pas une bonne idée. Sauf qu'en fait, dans la loi, on dit il faut pas contrarier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. C'est-à-dire qu'une personne qui est hétéro, qui est homo, il faut pas la forcer à devenir hétéro, d'accord. Mais une personne qui est transgenre, il faut pas la forcer à devenir comme ils disent cisgenre. Là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'un enfant ou adolescent qui dit qu'il est transgenre, ce n'est pas une réalité de son corps, de ses émois, etc., qui sont mesurables, qu'on peut constater. Ce n'est pas une réalité, ce sont des mots. Si je dis « je suis transgenre », c'est juste des mots. Et donc, une tactique de plaquer une cause sur une autre.
Alors, dans les cas que vous... que vous décrivez, que vous racontez, il y a aussi l'idée que l'homosexualité n'est pas assumée pour des questions familiales, religieuses aussi, et que l'on préfère changer de sexe plutôt que d'accepter sa propre homosexualité.
Là aussi, c'est très intéressant parce que ce qu'on pense habituellement, parce que c'est présenté comme ça, et ce que je pensais aussi avant de m'intéresser au sujet, c'est que en gros, maintenant dans la société, on accepte plus ou moins les homosexuels et lesbiennes qui ont des droits, voilà. Mais il reste une minorité qui n'est pas encore acceptée. C'est comme s'il y avait un chemin de progrès. On accepte, maintenant on reconnaît que les femmes ont des droits, on reconnaît ensuite que les homosexuels ont des droits. Et maintenant, il reste à reconnaître que les personnes trans ont des droits, comme c'était un cheminement comme ça. Mm-hmm. Et le discours, c'est de dire que les personnes transgenres ont toujours existé, mais elles étaient tellement opprimées qu'elles n'osaient pas le dire. Ça reste de l'ordre de l'hypothèse.
Enfin, l'abbé de Choisy était content.
Pardon ?
L'abbé de Choisy était content. Alors, ce qu'il faut pour rassurer les parents et les parents qui nous écoutent, qui ont une jeune fille qui veut s'appeler Sacha, il y a aujourd'hui des associations et des groupes de parole pour aider les parents, notamment Hypomonie.
Oui, alors c'est donc Hypomonie avec un Y.
Avec un Y.
Ce qui veut dire patience en grec. En fait, le propos de ces parents d'enfants, enfin d'enfants adolescents qui se disent trans, c'est de dire calmons-nous, on attend. Parce que tout simplement, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, ça se repose aussi sur des études scientifiques qui disent qu'il y a un certain nombre d'enfants qui se disent pas trans, mais qui disent je suis une fille alors qu'ils sont un garçon, et l'inverse. Voilà. Il se trouve que dans plus de 80% des cas, suivant les études, cette confusion passe après l'adolescence. Mmh. Voilà, après l'adolescence, aussi, il y a un rapport aussi plus concret à son corps sexué. Les personnes...
On trouve les mots aussi pour pouvoir en parler.
Oui, mais en fait, un enfant qui disait « en fait, je suis une fille, en fait, je suis un garçon », passe l'adolescence, ces personnes se réconcilient avec leur sexe. Et souvent deviennent homosexuelles, en fait. C'est là que c'est intéressant. Enfin, c'est une information intéressante. Donc, en fait, quand un enfant ou adolescent dit qu'il ou elle est trans, il faut attendre pour voir si ça ne passe pas à l'âge adulte, tout
Bien
simplement.
Sûr.
Et si ça ne passe pas à l'âge adulte, là, oui, une transition peut être une bonne idée. Moi, je ne dis jamais que les personnes trans n'existent pas. Je ne dis jamais ça.
Bien sûr.
En fait, il y a toujours eu une très, très, très petite minorité de personnes, et surtout quasiment uniquement des hommes, qui se sentent mieux en tant que femmes. Et qui font une transition, qui changent l'état civil. Donc, en fait, ces personnes ont des droits. Et ça a toujours existé. Et ça leur fait du bien de faire une transition. Et tant mieux. Mais en revanche, il faut être sûr que ce besoin persiste à l'âge adulte.
Jean-François Rode.
Oui, vos paroles sont très claires, mais je voudrais dire à nos auditeurs que, en tout cas pour moi, ce livre a été un peu une révélation. Je pense que beaucoup d'auditeurs sont comme moi. On sait que ça existe, le transgenre, bien sûr. On est un peu de bonne volonté, on n'y va pas tout, pourquoi pas.
C'est une question de mode. C'est la prochaine week.
Non, pas forcément. On peut se dire, non, mais on peut être tout simplement en train de se dire, bah, après tout, peut-être que c'est une réalité, il faut l'accepter, il faut aider ces personnes qui ne vont pas forcément très bien, c'est compliqué, etc.
C'est une souffrance.
Voilà. Mais en lisant votre livre, je me suis rendu compte, en particulier donc, de l'ampleur presque exponentielle de la chose.
Et mondiale.
Hein. Mondiale, et avec un phénomène justement dans les réseaux sociaux qui en fait conditionne beaucoup de jeunes, en particulier beaucoup de jeunes filles. Et je ne dis pas que... moi, j'ai appris beaucoup en lisant votre livre. J'ai appris surtout qu'il y avait vraiment là quand même une chose à réfléchir, et à réfléchir effectivement au niveau social. Parce que on a tout de suite parlé de la circulaire bancaire, et on pourrait parler aussi donc de ces médecins qui, il suffit de dire je veux être une femme, je suis une femme en fait. Hein. On dit pas je veux être une femme, je suis une femme.
Quelle que soit la réalité du corps.
Mon sexe, il est différent, mais moi, je suis une femme. Il suffit de le dire pour que ça soit. Bon, c'est une vraie question. Hein. Je trouve que votre livre est très, un peu, pas inquiétant, mais enfin, parce qu'il est révélateur, mais je trouve que beaucoup de... On devrait le lire, hein. Il faut le lire.
Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que ces jeunes filles sont des marionnettes d'un énorme réseau, à la fois financier, politique et pharmaceutique. Je vous rappelle que c'est la célèbre firme Pfizer qui commercialise la testostérone. Et puis, vous donnez un certain nombre de noms d'entreprises, enfin, notamment les GAFAM, et ça se termine sur une espèce de folie.
Oui. Votre dernier chapitre sur les Google
sur le transhumanisme. Après avoir redéfini la biologie en termes d'identité sexuelle, la technologie redéfinira la biologie en termes d'identité humaine.
Oui,
les ambitions de Rotblat.
Martin Rotblat le dit clairement, oui. Il l'écrit, c'est tout à fait accessible. C'est un programme transhumaniste, et cette personne dit la transidentité, c'est juste une étape, en fait, bientôt.
Mais c'est énorme.
Oui.
Outre le business des hormones, la transition de genre ouvre des débouchés commerciaux pour d'autres professions. Les psychologues, psychiatres, chirurgiens plastiques, évidemment, mais aussi les orthophonistes, ainsi que les professionnels qui commercialisent des épilations du laser, des binders, du maquillage et du matériel d'entretien de la vaginoplastie pour femmes trans et autres biens de consommation destinés à visibiliser son identité. Mais... Donc il y a toute une industrie qui est en train de s'organiser derrière.
Mais ce serait pas grave si c'était efficace.
Ben
en fait, il y a plein d'industries, surtout. Enfin, voilà. Oui, les médicaments rapportent beaucoup d'argent aux firmes pharmaceutiques. C'est normal. Le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas du tout efficaces. Bien au contraire, il y a aucune étude qui montre que une jeune personne trans, dès lors qu'elle fait sa transition, donc médicale, sociale et médicale, se sent mieux ensuite. Aucune étude ne le montre. En fait, on ne sait pas. Ce qui aide les jeunes, parce que, comme vous le disiez, oui, ces jeunes vont mal, ça, personne ne le renie. Ce sont des jeunes qui ne vont bien, qui se disent trans, c'est une sorte de symptôme ou de recherche d'une solution. Ces personnes vont mal. Et là, en fait, le problème, c'est que la transition ne les aide pas. Ce qui va les aider, c'est les bonnes vieilles méthodes, une psychothérapie, le fait d'avoir une meilleure vie sociale, un rapport à leur corps apaisé grâce à du sport ou autre. Mais pas à la transition de genre.
Selon les chiffres communiqués par la CNAM en 2020, le nombre de personnes traitées pour une transition de genre était de près de 9000, dont 3300 nouvelles patientes et patients. Ces chiffres ont été multipliés par 10 depuis 2013, et dans le même laps de temps, le nombre de demandes de chirurgie a quadruplé. C'est quand même un phénomène bouleversant, et merci encore, parce que votre livre est très simple, il est plein d'informations, et nous pousse à réfléchir à la fois sur notre propre identité, parce qu'il faut aussi y réfléchir, mais qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, et comment nos enfants, et nos jeunes, et nos adolescents, dans la détresse, comment trouver les mots qui vont correspondre à leur... Alors demande. Alors c'est peut-être pas forcément les parents, c'est peut-être les amis des parents qui doivent être là, ou les éducateurs.
Je sais pas. En fait,
qui rentre en dialogue.
Le problème, c'est que ces jeunes et notamment des jeunes homosexuels, lesbiennes, qui avec en plus un rejet du corps, vont dans des associations de jeunes, et notamment les associations LGBTQI.
Ouais.
etc. Et là, on les incite. On dit, enfin, en fait, c'est présenté comme
non,
on l'accepte, mais en fait, on les encourage,
ouais.
Voire on les incite. Mm. Et il y a aussi, moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, moins jeunes, qui ont été dans ces milieux-là, et qui disent, en fait, on ne peut pas poser de questions. On n'a pas le droit de douter. Et c'est comme ça, un homme qui dit à une femme, quoi qu'il fasse, qu'il ait les pires comportements des pires hommes, il ne faut surtout pas remettre en question ce qu'il dit.
Et dans ces associations-là, derrière, il y a le planning familial.
Oui, qui a changé de mission.
Voilà.
C'était une surprise aussi pour moi, ça, en fait, non ?
Oui.
Enfin, c'est quand même. Là aussi, on voit vraiment une évolution sociale formidable. Hein. Enfin, assez, vraiment inquiétante, il me semble, non ?
Oui, en fait, on voit que c'est cohérent, parce que j'essaie de montrer dans mon livre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'au départ, le mouvement transgenre vient d'une collusion,
oui.
Pardon, entre donc clairement des médecins. Pardon, mais qui s'amuse au départ, c'est sur des hamsters. Tiens, on va intervertir des gonades de hamsters pour voir ce qui se passe. Alors, ça n'a aucune utilité thérapeutique, mais pour voir. À côté de ça, il y avait des hommes qui se sentaient féminins, entre guillemets, qui disaient, mais en fait, je ne suis pas un vrai homme, vu que je suis attiré par les hommes, et en plus, j'ai une sensibilité de femme, entre guillemets, ce qui est très rétrograde comme une façon de penser. Donc, en fait, il y a une rencontre comme ça entre des médecins. Cette mentalité très rétrograde, en même temps des intérêts financiers, en même temps des personnes aussi qui pensent qu'un homme homosexuel, ben en fait, c'est une femme, c'est pas un vrai homme, et pareil pour les femmes. Donc, il y a eu comme ça une rencontre d'intérêts, et en fait, on se rend compte que tout est cohérent.
Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la
procure ? Juste un mot par rapport à notre public, sur la notion de genre, c'est pas du tout aussi clair qu'on le croit. Et en fait, il y a même quelquefois, on dit, bon, la théorie du genre, c'est le diable. En fait, il faudrait analyser un peu, il me semble, moi, en tout cas, quand je discute sur ces sujets-là, qu'il y a aussi quelquefois un refus de constater que la notion d'homme et de femme n'est pas que biologique, elle est évidemment culturelle, sociale. On n'est pas homme de la même façon dans les différentes sociétés. Et donc, il faut prendre aussi en compte cet aspect culturel du genre.
Absolument.
Au lieu de rejeter toute théorie du genre de façon sommaire.
Non, il ne faut pas la rejeter, il faut au contraire.
Ça n'aide pas à affronter ces questions compliquées qu'il y a dans les... Oui, bien sûr.
oui, en fait, au début, la notion de genre était utile. Justement, elle permettait de dire, en fait, le rôle social attribué aux hommes et aux femmes n'est pas naturel, ne découle pas de la biologie, donc on peut le remettre en question. Il y a la nature des hommes, enfin, il y a le corps des hommes, le corps des femmes, et il y a le genre féminin et masculin. Donc, c'était utile. Sauf qu'à un moment donné, cette notion a été pervertie. En fait, on s'est mis à dire, on peut être un homme avec un genre féminin. Donc, en fait, un corps d'homme avec un genre féminin, en fait, c'est une femme. Donc, en fait, c'est le côté construit a pris le pas sur la réalité biologique et c'est devenu une identité de genre. Et donc, on
mais oui, mais cette clarification est très intéressante et très importante pour qu'on ait un abord réel de ces questions, il me semble.
Mais non seulement c'est important qu'on ait cette définition, mais que les définitions ne soient pas des cases, vous voyez ? C'est-à-dire qu'elles ne soient pas enfermantes. Or, dans le transgenrisme, on a des repentis. C'est-à-dire qu'on a des gens, des filles, qui vont devenir des garçons avec un corps d'homme, et qui, au bout d'un moment, se disent « Mais non, j'aimerais redevenir ce qui j'étais. Ouais. » Et donc là, c'est très, très grave, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Oui, c'est irréversible. Ouais.
C'est irréversible.
Enfin, si on prend un certain nombre de choses...
Jean-François, vous avez deux minutes pour dire ce qu'on va aller voler sur les tables.
Bon. Alors, je change totalement de sujet, mais c'est la règle du jeu aussi dans notre émission, parce que je voudrais signaler un livre très important et très, très utile de Jean-Michel Garrigue. Ça s'appelle « L'impossible substitution, juifs et chrétiens, 1er, 3e siècle », c'est aux belles lettres. Bon, c'est un livre un peu savant, d'accord, mais pourquoi pas on a besoin de livres savants et de gens qui travaillent bien. Et là, il se pose une vraie question qui est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déchirure au début, dans ces siècles-là, entre juifs et chrétiens? Jésus n'a pas voulu fonder une nouvelle religion, les apôtres non plus, Paul non plus, mais pourquoi est-ce que finalement, il y a eu cette rupture entre...
À quel moment?
Dès le début, dès saint Paul.
Oui, avec la question de la circoncision.
Alors, justement, le livre-là dit, cette déchirure, en fait, elle est toujours présente.
Je peux dire un mot?
Oui, vous avez...
L'enquête, c'est une enquête de théologie historique qui veut interroger une déchirure religieuse qui s'est produite il y a presque 20 siècles dans le peuple juif et qui a donné naissance à ce qui s'est appelé depuis lors le christianisme. Une déchirure qui demeure. Longtemps, pendant des siècles, cette séparation a été occultée comme déchirure par l'ignorance et la désaffection, le mépris et l'hostilité réciproque. Chaque partie pouvait en effet se considérer comme autosuffisante.
Redonnez-nous le titre de votre livre.
Un livre formidable, L'impossible substitution, une étude donc de Jean-Michel Garrigue, juif et chrétien, 1er et 3e siècle, aux belles lettres.
Merci Jean-François Rode, merci Pauline Arrigui. Je rappelle votre livre, Les ravages du genre, et le mot n'est pas trop fort, Les ravages du genre, aux éditions du CERF. Merci Jean-François Rode, merci également à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Alpeche, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, nous nous transmettrons les coups de cœur des pièces à voir en ces périodes de fête. Alors à demain donc, papier crayon en main, je vous embrasse.